Certes, ils sont magnifiques, et vous aviez raison de me les vanter, répondit Genesta. Maintenant, reprit le médecin, quand il fut à cheval et qu'il eut passé le portail, nous allons traverser nos nouveaux défrichis et les terres à blé, le petit coin de ma commune que j'ai nommé la Beauce. Pendant environ 1 heure, les deux cavaliers marchèrent à travers champs sur la belle culture desquelles le militaire complimenta le médecin. Puis ils regagnèrent le territoire du bourg en suivant la montagne, tantôt parlant, tantôt silencieux, selon que le pas des chevaux leur permettait de parler ou les obligeait à se taire. Je vous ai promis hier, dit Benassi à Genesta en arrivant dans une petite gorge par laquelle les deux cavaliers débouchèrent dans la grande vallée, de vous montrer un des deux soldats qui sont revenus de l'armée après la chute de Napoléon. Si je ne me trompe, nous allons le trouver à quelques pas d'ici, recreusant une espèce de réservoir naturel où s'amassent les eaux de la montagne et que les atterrissements ont comblé. Mais pour vous rendre cet homme intéressant, il faut vous raconter sa vie. Il a nom Gondrin, reprit-il. Il a été pris par la grande réquisition de 1792, à l'âge de 18 ans, et incorporé dans l'artillerie. Simple soldat, il a fait les campagnes d'Italie sous Napoléon, l'a suivi en Égypte, est revenu d'Orient à la paix d'Amiens, puis, enrégimenté sous l'Empire dans les pontonniers de la garde, il a constamment servi en Allemagne. En dernier lieu, le pauvre ouvrier est allé en Russie. Nous sommes un peu frères, dit Genesta. J'ai fait les mêmes campagnes. Il a fallu des corps de métal pour résister aux fantaisies de tant de climats différents. Le bon Dieu a, par ma foi, donné quelques brevets d'invention pour vivre à ceux qui sont encore sur leurs quilles après avoir traversé l'Italie, l'Égypte, l'Allemagne, le Portugal et la Russie. Aussi allez-vous voir un bon tronçon d'homme, reprit Benassi. Vous connaissez la déroute, inutile de vous en parler. Mon homme est un des pontonniers de la Bérézina. Il a contribué à construire le pont sur lequel a passé l'armée. Et pour en assujettir les premiers chevalets, il s'est mis dans l'eau jusqu'à mi-corps. Le général Eblé, sous les ordres duquel étaient les pontonniers, n'en a pu trouver que 42 assez poilus, comme dit Gondrin, pour entreprendre cet ouvrage. Encore le général s'est-il mis à l'eau lui-même en les encourageant, les consolant, et leur promettant à chacun 1 000 francs de pension et la croix de légionnaire. Le premier homme qui est entré dans la Bérézina a eu la jambe emportée par un gros glaçon, et l'homme a suivi sa jambe. Mais vous comprendrez mieux les difficultés de l'entreprise par les résultats. Des 42 pontonniers, il ne reste aujourd'hui que Gondrin. 39 d'entre eux ont péri au passage de la Bérézina, et les deux autres ont fini misérablement dans les hôpitaux de la Pologne. Ce pauvre soldat n'est revenu de Vilna qu'en 1814, après la rentrée des Bourbons. Le général Eblé, de qui Gondrin ne parle jamais sans avoir les larmes aux yeux, était mort. Le pontonnier, devenu sourd, infirme, et qui ne savait ni lire ni écrire, n'a donc plus trouvé ni soutien ni défenseur. Arrivé à Paris, en mendiant son pain, il y a fait des démarches dans les bureaux du ministère de la guerre pour obtenir, non les 1 000 francs de pension promis, non la croix de légionnaire, mais la simple retraite à laquelle il avait droit après 22 ans de service et je ne sais combien de campagnes. Mais il n'a eu ni solde arriéré, ni frais de route, ni pension. Après 1 an de sollicitations inutiles, pendant lequel il a tendu la main à tous ceux qu'il avait sauvés, le pontonnier est revenu ici désolé, mais résigné. Ce héros inconnu creuse des fossés à 10 sous la toise. Habitué à travailler dans les marécages, il a, comme il le dit, l'entreprise des ouvrages dont ne se soucie aucun ouvrier. En curant les mares, En faisant les tranchées dans les prés inondées, il peut gagner environ 3 francs par jour. Sa surdité lui donne l'air triste. Il est peu causeur de son naturel, mais il est plein d'âme. Nous sommes bons amis. Il dîne avec moi les jours de la bataille d'Austerlitz, de la fête de l'empereur, du désastre de Waterloo, et je lui présente au dessert un napoléon pour lui payer son vin de chaque trimestre. Le sentiment de respect que j'ai pour cet homme est d'ailleurs partagé par toute la commune, qui ne demanderait pas mieux que de le nourrir. S'il travaille, c'est par fierté. Dans toutes les maisons où il rentre, chacun l'honore, à mon exemple, et l'invite à dîner. Je n'ai pu lui faire accepter ma pièce de 20 francs que comme portrait de l'empereur. L'injustice commise envers lui l'a profondément affligé. Mais il regrette encore plus la croix, qu'il ne désire sa pension. Une seule chose le console. Quand le général Eblé présenta les pontonniers valides à l'empereur, après la construction des ponts, Napoléon a embrassé notre pauvre Gondrin, qui, sans cette accolade, serait peut-être déjà mort. Il ne vit que par ce souvenir et par l'espérance du retour de Napoléon. Rien ne peut le convaincre de sa mort. Et persuadé que sa captivité est due aux Anglais, je crois qu'il tuerait, sur le plus léger prétexte, le meilleur des aldermen, voyageant pour son plaisir. Allons, allons! S'écria Genesta en se réveillant de la profonde attention avec laquelle il écoutait le médecin. Allons vivement! Je veux voir cet homme! Et les deux cavaliers mirent leurs chevaux au grand trot. L'autre soldat, reprit Benassi, est encore un de ces hommes de fer qui ont roulé dans les armées. Il a vécu comme vivent tous les soldats français, de balles, de coups, de victoires. Il a beaucoup souffert et n'a jamais porté que des épaulettes de laine. Son caractère est jovial. Il aime avec fanatisme Napoléon, qui lui a donné la croix sur le champ de bataille à Valutina. Vrai dauphinois, il a toujours eu soin de se mettre en règle. Aussi a-t-il sa pension de retraite et son traitement de légionnaire. C'est un soldat d'infanterie nommé Gogola qui a passé dans la garde en 1812. Il est, en quelque sorte, la femme de ménage de Gondrin. Tous deux demeurent ensemble chez la veuve d'un colporteur à laquelle ils remettent leur argent. La bonne femme les loge, les nourrit, les habille, les soigne, comme s'ils étaient ses enfants. Gogla est ici piéton de la poste. En cette qualité, il est le diseur de nouvelles du canton, et l'habitude de les raconter en a fait l'orateur d'éveillé, le conteur en titre. Aussi, Gondrin le regarde-t-il comme un bel esprit, comme un malin. Quand Gogla parle de Napoléon, le pontonnier semble deviner ses paroles au seul mouvement des lèvres. S'ils vont ce soir à la veillée qui a lieu dans une de mes granges, et que nous puissions les voir sans être vus, je vous donnerai le spectacle de cette scène. Mais nous voici près de la fosse, et je n'aperçois pas mon ami le pontonnier. Le médecin et le commandant regardèrent attentivement autour d'eux. Ils ne virent que la pelle, la pioche, la brouette, la veste militaire de Gondrin auprès d'un tas de boue noire. Mais nul vestige de l'homme dans les différents chemins pierreux par lesquels venaient les eaux, espèce de trous capricieux presque tous ombragés par de petits arbustes. Il ne peut être bien loin. Ohé! Gondrin! Cria Benassi. Genesta aperçut alors la fumée d'une pipe entre les feuillages d'un éboulis et la montra du doigt au médecin qui répéta son cri. Bientôt, le vieux pontonnier avança la tête, reconnut le maire et descendit par un petit sentier. Eh bien, mon vieux, lui cria Benassi en faisant une espèce de cornette acoustique avec la paume de sa main. Voici un camarade, un Égyptien, qui t'a voulu voir. Gondrin leva promptement la tête vers Genesta et lui jeta ce coup d'œil profond et investigateur que les vieux soldats ont su se donner à force de mesurer promptement leur danger. Après avoir vu le ruban rouge du commandant Il porta silencieusement le revers de sa main à son front. Si le petit tondu vivait encore, lui cria l'officier, tu aurais la croix et une belle retraite, car tu as sauvé la vie à tous ceux qui portent des épaulettes et qui se sont trouvés de l'autre côté de la rivière le 1er octobre 1812. Mais, mon ami, ajouta le commandant en mettant pied à terre et lui prenant la main avec une soudaine effusion de cœur, je ne suis pas ministre de la guerre. En entendant ces paroles, le vieux pontonnier se dressa sur ses jambes, après avoir soigneusement secoué les cendres de sa pipe et l'avoir serrée. Puis il dit en penchant la tête. Je n'ai fait que mon devoir, mon officier, mais les autres n'ont pas fait le leur à mon égard. Ils m'ont demandé mes papiers. Mes papiers, leur ai-je dit, mais c'est le 29e bulletin. Il faut réclamer de nouveau, mon camarade. Avec des protections, il est impossible aujourd'hui que tu n'obtiennes pas justice. Justice ? Cria le vieux pontonnier d'un ton qui fit tressaillir le médecin et le commandant. Il y eut un moment de silence, pendant lequel les deux cavaliers regardèrent ce débris des soldats de bronze que Napoléon avait triés dans trois générations. Gondrin était certes un bel échantillon de cette masse indestructible qui se brisa sans rompre. Ce vieil homme avait à peine 5 pieds, son buste et ses épaules s'étaient prodigieusement élargis, sa figure, tannée, sillonnée de rides, creusée mais musculeuse, conservait encore quelques vestiges de martialité. Tout en lui avait un caractère de rudesse. Son front semblait être un quartier de pierre, ses cheveux rares et gris retombaient faibles, comme si déjà la vie manquait à sa tête fatiguée. Ses bras, couverts de poils aussi bien que sa poitrine, dont une partie se voyait par l'ouverture de sa chemise grossière, annonçaient une force extraordinaire. Enfin, il était campé sur ses jambes, presque torse, comme sur une base inébranlable. Justice ! Répéta-t-il. Il n'y en aura jamais pour nous autres. Nous n'avons point de porteur de contraintes pour demander notre dû. Et comme il faut se remplir le bocal, dit-il en se frappant l'estomac, nous n'avons pas le temps d'attendre. Or, vu que les paroles des gens qui passent leur vie à se chauffer dans les bureaux n'ont pas la vertu des légumes, je suis revenu prendre ma solde sur le fond commun, dit-il, en frappant la boue avec sa pelle. Mon vieux camarade, cela ne peut pas aller comme ça, dit Genesta. Je te dois la vie, et je serais ingrat si je ne te donnais un coup de main. Moi, je me souviens d'avoir passé sur les ponts de la Bérézina. Je connais de bons lapins qui en ont aussi la mémoire toujours fraîche, et ils me seconderont pour te faire récompenser par la patrie, comme tu le mérites. Mais ils vous appelleront bonapartiste. Ne vous mêlez pas de cela, mon officier. D'ailleurs, j'ai filé sur les derrières, et j'ai fait ici mon trou comme un boulet mort. Seulement, je ne m'attendais pas, après avoir voyagé sur les chameaux du désert et avoir bu un verre de vin au coin du feu de Moscou, à mourir sous les arbres que mon père a plantés, dit-il en se remettant à l'ouvrage. Pauvre vieux, dit Genesta. À sa place, je ferai comme lui. Nous n'avons plus notre père. Monsieur, dit-il à Benassi, la résignation de cet homme me cause une tristesse noire. Il ne sait pas combien il m'intéresse, et va croire que je suis un de ces gueux dorés insensibles aux misères du soldat. Il revint brusquement, saisit le pontonnier par la main, et lui cria dans l'oreille. Par la croix que je porte, et qui signifiait autrefois honneur, je jure de faire tout ce qui sera humainement possible d'entreprendre pour t'obtenir une pension, quand je devrais avaler 10 refus de ministre, solliciter le roi, le dauphin et toute la boutique. En entendant ces paroles, le vieux Gondrin tressaillit, regarda Genesta et lui dit « Vous avez donc été simple soldat ?» Le commandant inclina la tête. À ce signe, le pontonnier s'essuya la main, prit celle de Genesta, la lui serra par un mouvement plein d'âme et lui dit « Mon général, Quand je me suis mis à l'eau là-bas, j'avais fait à l'armée l'aumône de ma vie. Donc il y a eu du gain, puisque je suis encore sur mes ergots. Tenez, voulez-vous voir le fond du sac? Eh bien, depuis que l'autre a été dégommé, je n'ai plus goût à rien. Enfin, ils m'ont assigné ici, ajouta-t-il gaiement en montrant la terre. 20 000 francs à prendre, et je m'en paie en détail, comme disent d'autres. Allons, mon camarade, dit Genesta, ému par la sublimité de ce pardon. Tu auras du moins ici la seule chose que tu ne puisses pas m'empêcher de te donner. Le commandant se frappa le cœur, regarda le pontonnier pendant un moment, remonta sur son cheval et continua de marcher à côté de Benassi. De semblables cruautés administratives fomentent la guerre des pauvres contre les riches, dit le médecin. Les gens auxquels le pouvoir est momentanément confié n'ont jamais pensé sérieusement au développement nécessaire d'une injustice commise envers un homme du peuple. Un pauvre, obligé de gagner son pain quotidien, ne lutte pas longtemps, il est vrai, mais il parle et trouve des échos dans tous les cœurs souffrants. Une seule iniquité se multiplie par le nombre de ceux qui se sentent frappés en elle. Ce levain fermente. Ce n'est rien encore. Il en résulte un plus grand mal. Ces injustices entretiennent chez le peuple une sourde haine envers les supériorités sociales. Le bourgeois devient et reste l'ennemi du pauvre, qui le met hors la loi, le trompe et le vole. Pour le pauvre, le vol n'est plus ni un délit ni un crime, mais une vengeance. Si, quand il s'agit de rendre justice aux petits, un administrateur les maltraite et filoute leurs droits acquis, comment pouvons-nous exiger de malheureux sans pain, résignation à leurs peines et respect aux propriétés? Je frémis en pensant qu'un garçon de bureau, de qui le service consiste à épousseter des papiers, a eu les 1 000 francs de pension promis à Gondrin. Puis, certaines gens qui n'ont jamais mesuré l'excès des souffrances accusent d'excès les vengeances populaires. Mais le jour où le gouvernement a causé plus de malheurs individuels que de prospérité, son renversement ne tient qu'à un hasard. En le renversant, le peuple solde ses comptes à sa manière. Un homme d'État devrait toujours se peindre les pauvres au pied de la justice. Elle n'a été inventée que pour eux. En arrivant sur le territoire du bourg, Benassi avisa dans le chemin deux personnes en marche et dit au commandant, qui depuis quelque temps allait tout pensif: Vous avez vu la misère résignée d'un vétéran de l'armée? Maintenant, vous allez voir celle d'un vieux agriculteur. Voilà un homme qui, pendant toute sa vie, a pioché, labouré, semé, recueilli pour les autres. Genesta aperçut alors un pauvre vieillard qui cheminait de compagnie avec une vieille femme. L'homme paraissait souffrir de quelque sciatique et marchait péniblement, les pieds dans de mauvais sabots. Il portait sur son épaule un bissac, dans la poche duquel ballottaient quelques instruments dont les manches, noircies par un long usage et par la sueur, produisaient un léger bruit. La poche de derrière contenait son pain, quelques oignons crus et des noix. Ses jambes semblaient déjetées. Son dos, voûté par les habitudes du travail, le forçait à marcher tout ployé. Aussi, pour conserver son équilibre, s'appuyait-il sur un long bâton. Ses cheveux, blancs comme la neige, flottaient sous un mauvais chapeau rougi par les intempéries des saisons et recousu avec du fil blanc. Ses vêtements de grosse toile, rapetassés en 100 endroits, offraient des contrastes de couleurs. C'était une sorte de ruine humaine à laquelle ne manquait aucun des caractères qui rendent les ruines si touchantes. Sa femme, un peu plus droite qu'il ne l'était, mais également couverte de haillons, coiffée d'un bonnet grossier, portait sur son dos un vase de grès rond et aplati, tenu par une courroie passée dans les anses. Ils levèrent la tête en entendant le pas des chevaux, reconnurent Benassi et s'arrêtèrent. Ces deux vieillards, l'un perclus à force de travail, l'autre sa compagne fidèle, également détruite, montrant tous deux des figures dont les traits étaient effacés par les rides, la peau noircie par le soleil et endurcie par les intempéries de l'air, faisaient peine à voir. L'histoire de leur vie n'eût pas été gravée sur leur physionomie, leur attitude l'aurait fait deviner. Tous deux, ils avaient travaillé sans cesse et sans cesse souffert ensemble, ayant beaucoup de maux et peu de joies à partager. Ils paraissaient s'être accoutumés à leur mauvaise fortune comme le prisonnier s'habitue à sa geôle. En eux, tout était simplesse. Leur visage ne manquait pas d'une sorte de gaie franchise. En les examinant bien, leur vie monotone, le lot de tant de pauvres êtres, semblait presque enviable. Il y avait bien chez eux trace de douleur, mais absence de chagrin. Eh bien, mon brave père Moreau, vous voulez donc absolument toujours travailler? Oui, monsieur Benassi, je vous défricherai encore une bruyère ou deux avant de crever, répondit gaiement le vieillard, dont les petits yeux noirs s'animèrent. Est-ce du vin que porte là votre femme? Si vous ne voulez pas vous reposer, au moins faut-il boire du vin? Me reposer, ça m'ennuie. Quand je suis au soleil, occupé à défricher, le soleil et l'air me raniment. Quant au vin, oui, monsieur, ceci est du vin. Et je sais bien que c'est vous qui nous l'avez fait avoir pour presque rien chez monsieur le maire de Courteil. Ah, vous avez beau être malicieux, on vous reconnaît tout de même. Allons. Adieu, la mère. Vous allez sans doute à la pièce du Champferlu aujourd'hui.
Oui, monsieur. Elle a été commencée hier soir.
Bon courage, dit Benassi. Vous devez quelquefois être bien content en voyant cette montagne que vous avez presque toute défrichée à vous seul.
Dame, oui, monsieur, répondit la vieille. C'est notre ouvrage. Nous avons bien gagné le droit de manger du pain.
Vous voyez, dit Benassi à Genesta, le travail, la terre à cultiver. Voilà le grand livre des pauvres. Ce bonhomme se croirait déshonoré s'il allait à l'hôpital ou s'il mendiait. Il veut mourir, la pioche en main, en plein champ, sous le soleil. Ma foi, il a un fier courage. À force de travailler, le travail est devenu sa vie. Mais aussi, ne craint-il pas la mort? Il est profondément philosophe, sans s'en douter. Ce vieux père Moreau m'a donné l'idée de fonder dans ce canton un hospice pour les laboureurs, pour les ouvriers, enfin, pour les gens de la campagne qui, après avoir travaillé pendant toute leur vie, arrivent à une vieillesse honorable et pauvre. Monsieur, je ne comptais point sur la fortune que j'ai faite et qui m'est personnellement inutile. Il faut peu de choses à l'homme tombé du faîte de ses espérances. La vie des oisifs est la seule qui coûte cher. Peut-être même est-ce un vol social que de consommer sans rien produire. En apprenant les discussions qui s'élevèrent lors de sa chute au sujet de sa pension, Napoléon disait n'avoir besoin que d'un cheval et d'un écu par jour. En venant ici, j'avais renoncé à l'argent. Depuis, j'ai reconnu que l'argent représente des facultés et devient nécessaire pour faire le bien. J'ai donc, par mon testament, donné ma maison pour fonder un hospice où les malheureux vieillards sans asile et qui seront moins fiers que ne l'est Moreau puissent passer leurs vieux jours. Puis, une certaine partie des 9000 francs de rente que me rapportent mes terres et mon moulin sera destinée à donner, dans les hivers trop rudes, des secours à domicile aux individus réellement nécessiteux. Cet établissement sera sous la surveillance du conseil municipal, auquel s'adjoindra le curé comme président. De cette manière, la fortune que le hasard m'a fait trouver dans ce canton y demeurera.
Les règlements de cette institution sont tous tracés dans mon testament. Il serait fastidieux de vous les rapporter. Il suffit de vous dire que j'y ai tout prévu. J'ai même créé un fonds de réserve qui doit permettre un jour à la commune de payer plusieurs bourses à des enfants qui donneraient de l'espérance pour les arts ou pour les sciences. Ainsi, même après ma mort, mon œuvre de civilisation se continuera. Voyez-vous, capitaine Bluteau, lorsqu'on a commencé une tâche, il est quelque chose en nous qui nous pousse à ne pas la laisser imparfaite. Ce besoin d'ordre et de perfection est un des signes les plus évidents d'une destinée à venir. Maintenant, allons vite. Il faut que j'achève ma ronde, et j'ai encore 5 ou 6 malades à voir. Après avoir trotté pendant quelque temps en silence, Benassi dit en riant à son compagnon: Ah ça, capitaine Bluteau, vous me faites babiller comme un jais, et vous ne me dites rien de votre vie, qui doit être curieuse. Un soldat de votre âge a vu trop de choses pour ne pas avoir plus d'une aventure à raconter. Mais, répondit Genestin, ma vie est la vie de l'armée. Toutes les figures militaires se ressemblent. N'ayant jamais commandé, étant toujours resté dans le rang à recevoir ou à donner des coups de sabre, j'ai fait comme les autres. Je suis allé là où Napoléon nous a conduits et me suis trouvé en ligne à toutes les batailles ou à frapper la garde impériale. C'est des événements bien connus. Avoir soin de ses chevaux, souffrir quelquefois la faim et la soif, se battre quand il faut, voilà toute la vie du soldat. N'est-ce pas simple comme bonjour? Il y a des batailles qui, pour nous autres, sont tout entières dans un cheval déferré, qui nous laisse dans l'embarras. En somme, j'ai vu tant de pays que je me suis accoutumé à en voir, et j'ai vu tant de morts que j'ai fini par compter ma propre vie pour rien. Mais cependant, vous avez dû être personnellement en péril pendant certains moments, et ces dangers particuliers seraient curieux racontés par vous. Peut-être, répondit le commandant. Eh bien, dites-moi ce qui vous a le plus ému. N'ayez pas peur. Allez. Je ne croirais pas que vous manquiez de modestie quand même, vous me diriez quelques traits d'héroïsme. Lorsqu'un homme est bien sûr d'être compris par ceux auxquels il se confie, ne doit-il pas éprouver une sorte de plaisir à dire « j'ai fait cela ». Eh bien, je vais vous raconter une particularité qui me cause quelquefois des remords. Pendant les 15 années que nous nous sommes battus, il ne m'est pas arrivé une seule fois de tuer un homme hors le cas de légitime défense. Nous sommes en ligne, nous chargeons. Si nous ne renversons pas ceux qui sont devant nous, ils ne nous demandent pas permission pour nous saigner. Donc, il faut tuer pour ne pas être démoli. La conscience est tranquille. Mais, mon cher monsieur, il m'est arrivé de casser les reins à un camarade dans une circonstance particulière. Par réflexion, la chose m'a fait de la peine, et la grimace de cet homme me revient quelquefois. Vous allez en juger. C'était pendant la retraite de Moscou. Nous avions plus l'air d'être un troupeau de bœufs harassés que d'être la grande armée. Adieu la discipline et les drapeaux. Chacun était son maître. Et l'empereur, on peut le dire, a su là où finissait son pouvoir. En arrivant à Studzianka, petit village au-dessus de la Bérézina, nous trouvâmes des granges, des cabanes à démolir, des pommes de terre enterrées et quelques betteraves. Depuis quelque temps, nous n'avions rencontré ni maison, ni mangeaille. L'armée a fait bombance. Les premiers venus, comme vous pensez, ont tout mangé. Je suis arrivé un des derniers. Heureusement pour moi, je n'avais faim que de sommeil. J'avise une grange. J'y entre. J'y vois une 20aine de généraux, des officiers supérieurs, tous hommes, sans les flatter, de grands mérites. Junot, Narbonne, l'aide de camp de l'empereur, enfin les grosses têtes de l'armée. Il y avait aussi de simples soldats qui n'auraient pas donné leur lit de paille à un maréchal de France. Les uns dormaient debout, appuyés contre le mur, faute de place. Les autres étaient étendus à terre, et tous si bien pressés les uns contre les autres, afin de se tenir chaud, que je cherche vainement un coin pour m'y mettre. Me voilà marchant sur ce plancher d'hommes. Les uns grognaient, les autres ne disaient rien, mais personne ne se dérangeait. On ne se serait pas dérangé pour éviter un boulet de canon. Mais on n'était pas obligé, là, de suivre les maximes de la civilité puérile et honnête. Enfin, j'aperçois au fond de la grange une espèce de toit intérieur sur lequel personne n'avait eu l'idée, ou la force peut-être, de grimper. J'y monte, je m'y arrange, et quand je suis étalé tout de mon long, je regarde ces hommes étendus comme des veaux. Ce triste spectacle me fit presque rire. Les uns rongeaient des carottes glacées en exprimant une sorte de plaisir animal, et des généraux enveloppés de mauvais châles ronflaient comme des tonnerres. Une branche de sapin allumée éclairait la grange. Elle y aurait mis le feu. Personne ne se serait levé pour l'éteindre. Je me couche sur le dos, et avant de m'endormir, je lève naturellement les yeux en l'air. Je vois alors la maîtresse poutre sur laquelle reposait le toit et qui supportait les solives faire un léger mouvement d'Orient en Occident. Cette sacrée poutre dansait très joliment. « Messieurs, leur dis-je, il se trouve dehors un camarade qui veut se chauffer à nos dépens. » La poutre allait bientôt tomber. « Messieurs, messieurs, nous allons périr. Voyez la poutre !» criai-je encore assez fort pour réveiller mes camarades de lit. Monsieur, ils ont bien regardé la poutre, mais ceux qui dormaient se sont remis à dormir, et ceux qui mangeaient ne m'ont même pas répondu. Voyant cela, il me fallut quitter ma place, au risque de la voir prendre, car il s'agissait de sauver ce tas de gloire. Je sors donc, je tourne la grange, et j'avise un grand diable de Wurtembourgeois qui tirait la poutre avec un certain enthousiasme. « Ah oh ! Ah oh ! » lui dis-je, en lui faisant comprendre qu'il fallait cesser son travail. « Geh mir aus dem Gesicht, oder ich schlag dich tot !» cria-t-il, ce qui voulait dire « Va-t'en hors de ma vue, ou je te bats à mort !»« Ah bien oui !» Que mire aus dem Gesicht. Va-t'en hors de ma vue, lui répondis-je. Il ne s'agit pas de cela. Je prends son fusil qu'il avait laissé par terre, je lui casse les reins, je rentre et je dors. Voilà l'affaire. Mais c'était un cas de légitime défense appliqué contre un homme au profit de plusieurs. Vous n'avez donc rien à vous reprocher, dit Benassi. Les autres, reprit Genesta, ont cru que j'avais eu quelques lubies. Mais, lubies ou non, beaucoup de ces gens-là vivent à leur aise aujourd'hui dans de beaux hôtels, sans avoir le cœur oppressé par la reconnaissance. N'auriez-vous donc fait le bien que pour en percevoir cet exorbitant intérêt appelé reconnaissance, dit en riant Benassi. Ce serait faire l'usure.